Vous êtes propriétaire d'un bien immobilier en France et vous vous demandez comment gérer votre bien depuis l'étranger? Pour cela, j'ai trouvé la solution idéale grâce à Flatlooker, une agence immobilière 100% digitale. Leur concept a déjà séduit de nombreux expatriés puisqu'ils travaillent déjà avec bon nombre d'entre eux un peu partout dans le monde. Flatlooker, c'est quoi? C'est l'agence immobilière leader de la gestion locative en ligne. Le développement de leur plateforme permet aux propriétaires de gérer et suivre l'évolution de leurs biens à distance à un tarif plus avantageux qu'avec une agence de quartier. Sans oublier que Flatlooker est 3 fois plus rapide qu'une agence de quartier car les logements sont loués exclusivement en ligne. Le fonctionnement de Flatlooker est 100% digital. Vous pourrez suivre toute l'évolution de votre dossier, de la recherche de locataires à la signature du bail directement depuis les États-Unis. Profitez dès maintenant d'un mois de gestion offert avec le code LESAMÉRICAINS. Bienvenue sur Les Américains, le podcast qui s'intéresse aux francophones expatriés aux États-Unis. Moi c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis Seattle. Cette semaine, je vous propose d'écouter le témoignage de 4 femmes qui ont obtenu leur nationalité américaine. Elles s'appellent Julie, Cindy, Jade et Isabelle et nous racontent leur parcours de naturalisation, pourquoi elles ont fait le choix de devenir américaines et l'impact de cette double nationalité sur leur identité. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous retrouve à la fin de cet épisode.
Je m'appelle Julie, j'ai 38 ans. Je suis originaire d'Albi, dans le Tarn, donc sud-ouest de la France. Et j'habite aujourd'hui à Jonesboro, dans le Tennessee, donc c'est dans le nord-est de l'état du Tennessee. Et ça fait 12 ans que je suis arrivée aux États-Unis, je suis arrivée en 2010. Moi, j'ai eu ma nationalité le 22 juin 2017. Du coup, ça va faire bientôt 5 ans. J'ai eu ma nationalité assez vite après ma carte verte. J'ai eu une carte verte via le mariage. Donc, 3 ans après, j'ai pu faire ma demande de nationalité. Alors, moi, je l'ai fait pour plusieurs raisons. Je l'ai fait principalement pour une histoire de papier, surtout à plus avoir de dépenses pour renouveler la carte verte, être sûr aussi qu'il n'y ait pas des lois dingues qui arrivent au milieu pour changer plein de choses vis-à-vis des cartes vertes et des visas, pour être vu que je savais que j'allais rester un long moment aux États-Unis ou peut-être toujours. Après, moi j'ai aussi quand j'ai demandé ma carte verte. On est obligé d'avoir un sponsor, quelqu'un qui nous soutienne financièrement. J'ai de la famille aux États-Unis, j'ai le frère de mon grand-père qui a immigré il y a quelques années, et donc du coup c'est la cousine germaine de ma mère qui m'a sponsorisée parce que mon mari ne pouvait pas me sponsoriser. Donc du coup je dépendais financièrement d'elle, même si je lui demandais rien, elle payait rien, mais il y avait toujours ce risque, si jamais quelque chose m'arrivait, elle devait payer pour mes factures en fait. On avait fait une lettre, mes parents avaient fait une lettre, si jamais j'avais un problème, que mes parents se portaient garants. Mais du coup, il y avait quand même ce poids sur elle qui pesait un peu. Donc, je voulais être sûre d'avoir la nationalité dès que je le pouvais pour lui enlever ce poids, quoi. Et après, pendant le temps de ma carte verte aussi, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. J'ai un problème de santé, donc du coup, je devais aller voir le médecin assez souvent. Et Alors, je sais pas si c'est pareil dans tous les États. Tous les États sont vraiment différents, mais dans l'État de Washington où j'étais, j'ai dû faire des examens médicaux et j'ai perdu aussi mon emploi. Donc, j'avais perdu mon assurance maladie. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis aperçue que les gens sous visa, on était vachement défavorisés quand on en vient au médical. Parce que déjà, ben, impossible de toucher Obamacare. Alors, apparemment, c'est différent dans chaque État. Mais chez nous, je ne pouvais pas. Je devais faire un examen médical en appelant pour savoir le montant, vu que j'étais sous visa. Apparemment, le montant était le double d'une personne avec la nationalité. C'était des procédures qui coûtaient plus de $1,000, donc pas très bien couvertes et tout. Donc plein de choses comme ça où je me disais, vu que j'ai des problèmes de santé, s'il m'arrive quelque chose de grave... La note de frais va être assez haute si j'ai pas ma nationalité. Donc il y a eu plein de choses qui se sont accumulées en me disant, ben, vaut mieux que je demande ma nationalité, je suis là pour un moment. Donc, autant éviter tous ces problèmes, que ce soit financier ou ces peurs de papier, d'être renvoyé chez soi ou quoi que ce soit, quoi. Donc voilà. Moi, ça a été très administratif, ma demande. Après l'entretien, moi c'était assez marrant l'entretien. En plus, je l'ai passé le même jour que notre français. On s'est rencontrés à ce moment-là. On passait tous les deux l'entretien le même jour. Donc on s'est retrouvés après pour aller boire une bière. Mais c'était l'entretien sans stress, quoi. Je suis arrivée, elle m'a appelée et vu que j'ai commencé à papoter avec elle en anglais, qu'elle a vu que mon anglais était parfait, parfait. Qu'il était bon, qu'elle me comprenait bien et tout. Elle a commencé à rigoler, à être plus décontracte et l'entretien était super décontracte. Parce qu'il pose, on a 100 questions à apprendre, sur des thèmes, tout, géographie, culture et tout. J'ai répondu sans problème à tout. Bon, si on révise bien, en fait, on retourne à l'école un peu, on révise bien. Et du coup, j'ai pas eu de soucis. Et après, le test, c'est parler, voir si tu sais parler. Donc ça, c'était pour moi, c'était déjà nickel. Après, ils nous faisaient lire aussi quelque chose. Ils connaissent un peu notre dossier aussi. Donc, ils savaient que je bossais. J'avais deux masters, dont un aux États-Unis. Donc, elles ne se faisaient vraiment pas de soucis sur mon dossier. Et écouter aussi, même chose, comprendre l'anglais. Et voilà, et là, à la fin du... Je sais pas s'ils le disent à tout le monde, mais pour moi, elle m'a dit « Bon, mais c'est bon, je t'enverrai les papiers pour la cérémonie. » Et je savais que mes parents arrivaient, venaient pour me voir. Et du coup, j'ai demandé, je fais « Oui, est-ce qu'on peut la mettre à cette période parce que mes parents seront là ?» Et t'as « Oui, oui, sans problème, je le mets sur ton dossier. » Donc, c'était vraiment bon enfant, tranquille, pas de stress, pas le truc comme l'entretien du mariage où t'as toujours peur que tu te fasses choper. Même l'entretien pour le mariage, pour moi, à Portland, a été vraiment tranquille. Alors, ça doit dépendre des bureaux, mais le bureau à Portland, ils sont quand même cool. Donc. Ben, moi, la cérémonie, je m'attendais vraiment à ce qu'on voit dans les films, quoi. Dans les films où des fois les expats, tu vois, ceux qui ont la cérémonie en Californie, ils ont ces grandes salles, ils ont plein d'amis qui peuvent venir. Moi, je crois qu'ils m'avaient dit que c'était limité à 3 personnes, un truc comme ça. Et donc, t'arrives, tu t'attends pendant un long moment et toi et ta famille, tu rentres dans cette toute petite salle où ils te préparent d'abord, ils te font pour être sûr que tout se passe bien. Mais, c'était marrant parce que moi, ça se voyait que le mec, il avait envie de liquider le truc, quoi. Il était là, bon, allez, pop, hop. Alors, il dit vite son discours, t'as le film, là, le super film qui passe, qui te fait rêver, vous devenez américain, plein d'espoir, le truc, le film bien à l'américaine et tout. Et puis après, c'était vraiment, allez, vite, vite, vite. Il appelait tout le monde, chacun récupérait son petit diplôme en disant, vous êtes américain. Mais après, c'était... Ouais, j'ai trouvé ça, c'était super bâclé, super à la rapide, tu vois. Donc, j'étais là, bon, ça fait pas autant rêver que, que ce que je pensais. Donc, c'était marrant. Bon, après, nous, on l'a plus pris. J'avais pas mal d'amis français sur Portland. Donc, après, on s'est tous retrouvés dans un pub dehors à Portland. Et puis, on a tous fêté ça, quoi. C'était plus le côté se retrouver, faire la fête un peu... Mais c'est vrai que la cérémonie en elle-même, non, elle fait pas rêver comme comme certains ont pu la vivre. Moi, la mienne, c'était vraiment liquidé. Je sais qu'à Portland, ils font deux cérémonies différentes. L'autre français l'a eu avant moi, et lui, je crois que c'était à la courthouse. Donc, je pense que les cérémonies sont différentes pour tout le monde, quoi. Mon mari, ça l'a pas tellement choqué parce que bon, je suis ici, il savait mon motivation aussi, le côté administratif et tout. Mes beaux-parents, alors là, ce qui est marrant, c'est que ma belle-mère n'est pas américaine, elle est anglaise. Et donc elle est toujours sous carte verte alors qu'elle vit aux États-Unis depuis qu'elle a 20 ans, quoi. Et c'est juste que ben, le Tennessee, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'il faut aller jusqu'à Memphis et on habite à 8 heures de Memphis, donc c'est beaucoup de voitures. Quand elle était plus jeune, avait les enfants, avait deux enfants en bas âge. Après, elle a laissé tomber un peu au cours des années. Là, récemment, elle en a parlé, elle devait renouveler sa carte verte. Elle disait, oh, peut-être que j'irai. Puis en fait, elle était là, ça sert à rien maintenant. À un certain âge, tant que tout se passe bien, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, elle a compris pourquoi je le faisais, quoi, vu qu'elle est aussi étrangère. Et mes parents, pas choqués non plus parce que j'étais ici. Après, comme j'ai dit, nous, on a de la famille du côté de mon grand-père qui est américain aussi. Donc, pour nous, ça a toujours été un peu dans la famille, la culture américaine, avoir des gens de double nationalité. Donc ça n'a jamais été un choc. Je pense pas que ça ait choqué mes grands-parents, tu vois, ou quoi que ce soit, parce que c'était quelque chose... Pour nous, c'est les familles multiculturelles, un peu, c'est quelque chose qui est un peu connu. Donc, il n'y a pas eu de grosses surprises, non. Les collègues, je pense que c'est un peu différent parce que les gens... Enfin, moi, j'ai un bon accent français. Non, parce que j'ai pas un accent aussi poussé que la majorité des Français, mais tu l'entends que quand même que je suis pas américaine. Enfin, pas américaine. Techniquement, pas américaine. Parce que je suis américaine. Mais ils entendent que je suis étrangère. Donc, du coup, des fois, quand je dis on parle à des gens et tout, quand tu viens de l'étranger, ils pensent automatiquement que t'as pas la double nationalité. Pour eux, c'est pas... Ils pensent que t'es sous visa. Donc, certains collègues qui sont étrangers comme moi, eux, par contre, oui, tu vois, dès que tu parles entre collègues, t'es là, ah, j'ai eu ma nationalité, choses comme ça, c'est, vu que tout le monde passe par le même processus et tout, c'est le côté, ah, super, c'est la fête, félicitations. Les collègues américains, ça leur change pas la vie, quoi. Ils trouvent pas, enfin, pour eux, c'est bizarre un peu, ils comprennent pas le concept de vouloir demander sa nationalité, ou pour eux, c'est normal sûrement aussi, quoi, tu vis aux États-Unis, donc voilà, quoi. Quand tu parles à des collègues et quand tu dis ou tu te fais embaucher ou des trucs comme ça, ils te disent non, mais je suis américaine. Tu vois, ils te demandent tes visas ou des trucs comme ça, et t'es là, non, je suis américaine. Et il y a toujours ce moment de surprise un peu, ah bon? Ah, t'es... Je m'identifie pas trop comme une américaine. C'est assez marrant parce que pourtant, en plus, Enfin, ma famille est américaine, donc j'ai vraiment grandi avec cette culture un peu américaine où mon oncle et ma tante venaient nous voir souvent, mes grands-parents allaient souvent aux États-Unis, on a connu la famille, on est venu les voir. Donc c'est peut-être ce côté aussi où j'ai vraiment... Ça fait partie de la culture de notre famille, donc peut-être que pour moi, je vois pas vraiment la différence entre la culture française et américaine, même si dans la vraie vie, tu vois vraiment la différence, mais ça fait vraiment partie de nous et c'est vrai que... Alors moi, je suis vraiment... je me sens à 100% française, quoi. Je prends mon accent et je suis vraiment... C'est vrai qu'après, en étant expatriée, ça change nos vies, quoi. Je suis sûre que quand on rentre en France, on nous voit plus... On a un peu cette culture américaine qui est ancrée en nous aussi, donc on change. Mais je me sens toujours à fond française, quoi. Sûrement parce qu'on est quand même différent par rapport aux Américains purs et durs. Donc du coup, ouais, non. Me sens pas 100%. Et souvent, ça me met dans des situations qui me font beaucoup rire parce que des fois, quand j'entends des expatriés qui arrivent, qui sont là depuis 1 ou 2 ans, les expatriés en plus qui arrivent avec leur conjoint français, qui ont souvent que des amis français, au bout d'un an, quelque chose comme ça, ils disent « Ah, je commence à me sentir vraiment américaine. » Et moi, après 12 ans, avec un mari américain, une famille américaine, je bosse qu'avec des Américains, j'ai très peu de contacts français, je suis là. Ah non, moi je me sens 100% française. Donc, les gens doivent le percevoir différemment aussi. Je pense que, tu vois, j'ai un mix français-américaine, mais, Mais, ou peut-être je suis tellement attachée à ce côté français que pour moi, au fond de moi, je suis là, non, je suis pas américaine. Mais c'est vrai que j'ai du mal et je fais ce lapsus toujours en disant, en parlant des Américains, alors que pourtant je suis américaine. Mais je m'identifie pas spécialement. Si on me dit français et américain, j'aurais plus le réflexe de dire je suis française qu'américaine, quoi. L'américain est plus sur papier, j'ai l'impression. Je suis sûre qu'en plus, si je parlais avec des Français, ils me diraient non, mais enfin, t'es américaine, quoi. Tu vois? Parce qu'on a habité ici trop longtemps, quoi. Mais bon, c'est toi, comment tu le perçois, comment que tu te vois. Moi, les liens vis-à-vis des US, j'ai ma famille qui est d'ici, enfin qui est en Californie. Le frère de mon grand-père a immigré il y a maintenant plus de 50 ans. Donc du coup, il a eu une partie de ses enfants qui sont nés ici, ses petits-enfants. Et mon grand-père et son frère étaient quand même très proches. Donc ils voyageaient souvent. Les uns venaient en France. Nous, on allait aux États-Unis. Donc on a grandi avec eux. On est proches de la famille. Donc c'est vrai que moi, la culture américaine a toujours fait partie de notre famille. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis partie au lycée. Donc à 17 ans, en 2001, je suis partie au lycée pendant un an. J'ai jamais eu ce rêve américain comme beaucoup de Français ont, en se disant « Ah, je vais partir, j'aimerais trop vivre ». Pour moi, c'était plus le fait de me rapprocher de la famille, en fait. De pouvoir parler, apprendre l'anglais, être bilingue, pouvoir communiquer avec eux facilement et puis connaître un peu ce qu'ils vivent et pouvoir plus facilement voyager, venir les voir, être plus proche de la famille en fait. Bon après il y a toujours cette petite envie de venir vivre aux États-Unis mais j'ai jamais eu ce grand rêve américain. J'ai du mal aussi à concevoir les gens qui idolâtrent les États-Unis. Des fois je suis là, tu sais pas tout, tu vois que le joli. Mais c'est vrai que ouais, j'ai cette approche qui est un peu différente, je pense, que beaucoup d'expats. Et je suis revenue en plus, pas spécialement en me disant je vais venir vivre aux États-Unis. Je suis revenue parce que je trouvais pas de boulot en France. Et donc, du coup, je suis revenue faire mes études aux États-Unis. Je suis venue faire mon master. Je devais rester que 2 ans. D'ailleurs, au bout de 2 ans, je devais rentrer. Puis après, j'ai ma cousine qui m'a dit, écoute, t'as un OPT, t'as un an de visa en plus. Si tu veux, viens vivre avec moi à San Diego, tu restes un an et puis après tu rentres, quoi. Au moins, viens vivre un an avec la famille, quoi. Et en fait, du coup, après, je suis restée, je suis plus repartie, quoi. Mais j'ai jamais eu cette. J'ai jamais été là, bon, je vais rester à vie aux États-Unis. Enfin, même maintenant, j'aimerais bien rentrer en France. Donc, moi, c'est pour ça que je dis que je suis expatriée, que j'ai peut-être du mal à m'identifier. Sur le fait que je suis américaine, c'est que dans ma tête, je reste une expatriée, j'ai pas immigré aux États-Unis, j'ai toujours cette envie de rentrer en France après, ou je suis pas le genre d'immigré qui me dit je vis aux États-Unis, j'y bougerai plus jamais de ma vie, je reste ici, je veux plus jamais rentrer en France, quoi. Donc voilà, et après les liens que j'entretiens avec la France, je pense que je suis dans le déni total de tout ce que j'aimais pas en France et qui m'énervait. Je pense que ça va me faire bizarre le jour où je vais rentrer en France et que je vais devoir avoir appelé customer service ou les trucs comme ça et passer des heures au téléphone et voilà. Enfin, la France, ça reste nos racines. Quelles que soient nos expatriations, je pense qu'on arrive de France, on a vécu en France toute notre enfance, on a la famille et tout. Il y a toujours une attache à la France. Quelle que soit l'intensité dans tous les cas. Après, moi, c'est vrai que, ouais, vu que j'ai envie de rentrer, j'ai une approche un peu différente parce que, voilà, c'est là où je sais que je ne resterai pas aux États-Unis à vie et que je rentrerai. Je suis toujours très attachée à la France. Je trouve qu'on a un beau pays et que c'est bien dommage de le dénigrer. Il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais l'herbe est jamais plus verte ailleurs. Donc, je pense pas que les États-Unis soient un exemple sur beaucoup de points non plus.
Je m'appelle Cindy, j'ai 31 ans, je suis arrivée aux États-Unis depuis 2013 sous un visa étudiant et puis la vie a suivi son cours. Pendant ce visa-là, j'ai rencontré ce charmant jeune homme qui deviendra mon mari qui est américain. Et voilà, et ensemble, on a poursuivi notre vie. On a eu deux enfants et aujourd'hui, on habite à côté de chez toi, Laure, à Seattle. Je suis devenue américaine en octobre 2020. Donc, c'était genre 2 semaines avant les élections présidentielles. Et j'étais tellement, tellement contente, soulagée, honorée de pouvoir voter contre ce... Je sais même pas trouver un mot qualificatif pour exprimer mon désarroi face à cette personne. Ce monstre jaune appelé Donald Trump. Et j'étais vraiment très très contente de pouvoir voter et get him out. J'avais la chance d'habiter en Californie, donc c'est un des états où on peut soumettre son vote dès le jour même. Il y a certains états où il faut se prendre en avance avant de pouvoir voter. Et là, c'est vraiment tu arrives et tu peux directement voter. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et nous, ce qui s'est passé, ça faisait plus d'1 an qu'on était ensemble avec Mac, on est allé voir une avocate d'immigration qu'il connaît, qui était une amie à lui à la NYU, que j'embrasse, Rachel, que je recommande d'ailleurs, qui nous avait fait part de, en fait, mes options moi, pour pouvoir rester aux États-Unis. Elle m'avait dit, bah, soit tu fais un H-1B visa et tu as 44% de chance de l'obtenir, soit vous vous mariez, tu as 100% de chance de l'obtenir et tu n'es pas rattaché à un employeur. Et donc, à l'issue de ça, on est allé au MoMA, on y a réfléchi, on a décidé de se marier en 2015. Donc, c'est là où j'ai entamé une procédure de carte verte, parce que c'était par souci de, on va dire, simplicité administrative. Hein, je dis pas que c'est simple d'être mariée. Ça a été juste le déroulement logique où, après la carte verte, bah, tu demandes la naturalisation, parce que bah, la carte verte, ça reste un visa qui est tous les 10 ans. La naturalisation, t'as ton passeport américain et plus personne t'embête, quoi. J'ai toujours trouvé ça plus simple quand on a connu quand même tous, je pense que tu l'as connu aussi, la galère d'attendre 1 heure à la douane pour pouvoir passer avec un mec qui t'attend et qui va te tirer la tronche et te sentir coupable parce que, je sais pas, t'as un mouchoir dans ta poche. Alors que quand t'as la carte verte ou quand t'as la nationalité, on te déroule le tapis rouge, on te dit bonjour, on te lance des sourires. Enfin, c'est quand même une autre chose à l'aéroport. T'es moins un bandit. Pour moi, ça avait une suite logique. On savait qu'on allait s'engager à vie ensemble. On savait qu'on allait avoir des enfants, un chat. Donc nécessairement, ça avait du sens d'homogénéiser tout ça et d'avoir la double nationalité. Les démarches administratives pour la naturalisation, franchement, je pense que c'est exactement le même que la carte verte par le billet du mariage. Toutes les preuves administratives que tu peux avoir avec ton partenaire, il faut les justifier. Donc en général, c'est ta déclaration fiscale, tous tes relevés bancaires. Tous tes relevés bancaires, c'est là où vraiment tu nous sors tous les tomes d'Harry Potter. Hein, enfin, c'est pas très écologique du tout. Mais bref, c'est donc tous les relevés bancaires. Je sais pas si vous avez acheté une voiture, ce genre de choses. Le bail aussi, le lease. Vraiment des factures. Je sais pas, toi aussi tu fais ça, genre le drive Whole Foods. Même ça, c'est soumis comme preuve justificative que tu vis avec la personne vu le montant que tu payes. Bref, donc nous par exemple, au fur et à mesure, on rajoutait l'adoption du chat. Ensuite, je crois en 2018, j'avais donné genre un papier médical pour montrer que j'étais enceinte de mon premier trimestre avec une écho à l'appui. Et puis pour ma citizenship, bah du coup j'avais rajouté le certificat de naissance de mon fils par exemple. Mais donc ce que je tiens à signaler, c'est que j'ai fait mes recherches moi-même pour savoir quels documents fournir. Et ensuite, quand mon dossier était monté, je le soumettais à l'avocate qu'on avait vue au tout début avec Mac, qui, elle, du coup, vérifiait bien que j'avais bien tout fait. Et bon, c'était un frais. Hein. Normalement, on peut demander à un avocat de tout faire pour nous. Enfin, faut quand même soumettre tous les documents et tout. Mais moi, elle m'avait simplement fait un frais, en fait, de revue de tout le dossier. C'était à moins de 1 000 $. Mais donc, au moins, j'avais l'assurance que le dossier était en béton pour pouvoir l'envoyer. La naturalisation, par exemple, j'imaginais pas qu'il fallait monter un dossier aussi conséquent, parce que j'imaginais quand même les gars Vous avez vu même les lettres que mon mec m'a écrit. Je pense que ça va. Vous avez compris que depuis 5-6 ans, on est quand même un couple viable, quoi. On a eu un enfant quand même ensemble. Mais non, il fallait quand même faire un dossier conséquent. On a quelques anecdotes quand même assez rigolotes par rapport à tout ce processus, notamment celui de la carte verte. Nous, on s'était mis d'accord que notre mariage administratif, on n'allait pas le sauvegarder dans notre mémoire. Nous, ça allait être vraiment le 24 septembre 2016, où c'est vraiment le mariage avec tous les copains, avec toute la famille et tout ça. Donc, il était quand même un an après. Et en fait, donc, comment on s'était donné ça ? On était prêts pour notre interview de carte verte. Sauf que quand il nous a demandé notre date de mariage, ni l'un ni l'autre, on s'en souvenait en fait. Et c'est bête parce que c'est quand même le premier truc qui normalement devrait nous venir. Et en fait j'avais de la chance parce que donc du coup le mec, comme il avait aussi une copie de notre Bible, hein, franchement, le mon Régnier version document. En fait il essayait de trouver un document et moi je lui disais ah bah, peut-être qu'il lui manque notre certificat de mariage. Donc du coup en fait moi, j'ai la petite, les pochettes roses transparentes, là, en France, où tu mets tous tes dossiers que eux, ils ont pas ici. Et en fait, comme je l'avais juste sorti, je l'avais remis juste en dessous de ma pochette. Et en fait, je pouvais lire à travers ma pochette la date. Et c'est comme ça que j'ai pu sortir la date. Mais sinon, je pense qu'on passait sous le deuxième truc. Ou alors, on aurait dû justifier. Mais bref. Donc ça, c'était quand même assez rigolo. Donc je vous conseille vraiment de connaître votre date de mariage. Même si c'est que administratif, c'est quand même important de le savoir. Après, comme on est arrivé, donc j'ai eu ma carte verte initiale qui était que de 2 ans, parce que ils te donnent pas la carte verte officielle si t'es pas marié depuis plus de 2 ans ou quelque chose comme ça. En fait, c'est genre, ah, ben, t'es marié avec un Américain, c'est chouette, mais au cas où c'est un truc frauduleux, on préfère pas te donner la carte verte de 10 ans, quoi. Donc j'ai eu une carte verte provisoire, et ensuite 2 ans après, j'ai pu apply pour la nouvelle carte verte de 10 ans. Donc c'est pour ça que j'ai fait une nouvelle application 2 ans après, pour une nouvelle carte verte. Donc celle-là, je l'ai reçue. Ensuite, il y a eu la pandémie mondiale qu'on connaît tous. Donc forcément, je crois que j'avais... En fait, je crois qu'à partir de 5 ans de mariage avec un Américain, tu peux demander la naturalisation. C'est indépendant de ta carte verte. Donc c'est ce que j'avais fait. Parce que la carte verte, ça reste quand même un visa. Un visa de 10 ans, mais ça reste un visa. Donc c'est embêtant à toujours renouveler. Donc j'avais tout envoyé parce que mon but c'était quand même de voter, je crois, en 2020. C'est pour ça que j'avais vraiment fait en sorte de tout envoyer pour m'assurer que je puisse voter. Ça a été un peu décalé, mais je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en parallèle aussi, donc moi j'étais attachée au USCIS de New York. J'ai déménagé à Los Angeles, donc j'avais peur aussi que ça ajoute du délai. Mais finalement ça s'est bien passé. J'ai reçu une demande pour faire le civic test. Donc c'est là où en fait il faut potasser un peu pour connaître l'histoire des États-Unis en long, en large et en travers. Même certains membres de ma belle famille ne savaient pas certaines questions, donc c'était assez rigolo. D'ailleurs, je crois qu'il y a un article qui est tombé récemment sur le New York Times là-dessus qui est très rigolo à regarder. Mais donc en fait, comme c'était la pandémie, ils faisaient le civic test et le oath ceremony en même temps. Et donc j'y suis allée, j'ai passé mon civic test, j'ai fait 0 faute. Je suis très fière de moi. America, fuck yeah. Et par contre, erreur de débutant. En fait, si je peux faire passer un message, c'est qu'à chaque fois que vous avez un entretien, que vous devez vous joindre là-bas, il faut ramener votre dossier au complet. Il faut ramener le bloc en béton de papier parce que... ils veulent peut-être voir des preuves supplémentaires parce que c'est pas la même personne qui traite le dossier qui a été reçu par mail versus la personne qui va voir votre jolie tête. Donc en gros, moi je bêtement, bah j'avais pas ramené mon dossier et donc il manquait des proof of evidence. Donc en fait j'avais passé mon civic test, mais j'avais oublié mes evidence, mes preuves. Et donc ils m'ont renvoyé chez moi, j'ai pas pu faire ma oath ceremony. Ils m'ont recontacté pour un nouveau rendez-vous pour ma oath ceremony seulement 2 semaines après. Donc je l'ai vraiment eu 10 jours avant les élections. Et j'étais genre, waouh, j'étais trop contente. Mais donc j'y suis retournée, j'ai juré sur la constitution que... par contre, il y a un truc qui m'a un peu agacée parce que donc tu répètes un mot que... Enfin, tu répètes un texte que quelqu'un te cite. Mais il faut savoir quand même que tu, en tant que citoyen américain, du coup, tu t'engages dans l'armée. Ça, je t'avouerai que ça m'a un peu genre j'ai pas trop envie de m'engager là-dedans. Mais tu te déclares quand même solennellement à te vouer corps et âme quand même à un pays. Et tu t'en rends compte en fait quand tu comprends vraiment le texte que t'es en train de lire à l'oral à un mec qui est derrière une glace vitrée devant toi, quoi. Donc j'étais pas fière, j'étais soulagée. Je pense que j'ai jamais eu de réelle fierté américaine. Non, je pense que j'étais très soulagée de pouvoir, encore une fois, le but ultime, c'était vraiment de pouvoir voter dans ce pays. Voilà, je suis arrivée en 2013 sous l'ère Obama. En 2016, on a eu Trump qui est arrivé au pouvoir. Il a fait tellement de dommages à ce pays que... Non, t'as peut-être raison, finalement. J'étais peut-être fière, en fait, de le kick out of the White House, tu vois. Je pense que j'étais quand même très contente. Ouais, fierté et soulagement. Mais... si je peux rajouter un détail aussi qui est complètement bête, encore une fois, comme nous, on niait un peu notre mariage administratif pendant un an, j'avais pas pris le nom de famille de mon mari. Je voulais le prendre pour, encore une fois, bêtement harmoniser les noms de famille de tout le monde dans la famille. Et en fait, j'ai dû attendre ma naturalisation pour changer officiellement de nom, parce que c'est vraiment un casse-pied de changer son nom de famille dans l'entre des cartes vertes et tout, parce que ça veut dire qu'il faut aller au tribunal pour expliquer pourquoi on va changer de nom, tout ça. Donc c'est vraiment fastidieux. Donc si je peux vous donner un conseil, si sur le long terme vous voulez prendre le nom de votre mari, ou même votre mari, votre nom, on s'en fout, faites-le pendant que vous vous mariez, même si vous voulez pas faire les changements du social security number et tout ça, vous pouvez attendre. Il n'y a pas d'urgence. Si c'est un sujet, faites-le pendant votre mariage et pas plus tard, quoi. Parce que c'est un vrai casse-tête administratif. Quand je suis arrivée aux États-Unis en 2013, donc comme je l'ai mentionné, c'était vraiment sous l'ère Obama. Il y avait un sentiment d'entraide, de sympathie, de solidarité. C'est pas pour rien que tu fais ce podcast. C'est vraiment les États-Unis, c'est un rêve pour beaucoup de familles qu'il faut pas dénier. Ça existe, le rêve américain. C'était un bel États-Unis. C'était inspirant. C'était bon. Il y avait eu ces histoires de drones quand même en Irak qui étaient toujours un peu mitigées, mais et même de finalement vivre avec un Américain et de vraiment prendre le pli sur entendre un peu des gens de la famille donner leur opinion sur leur propre pays, comprendre un peu les mentalités, hein. Voilà, sortir un peu de son village de Gaulois à New York, enfin c'était vraiment c'était intéressant. Et je me rappelle que quand j'entamais mes démarches de carte verte et tout ça, j'avais lancé un blog. La trame, c'était vraiment pas genre où trouver la meilleure baguette de pain à New York, c'était vraiment comment toi, en tant que petit français ou française, tu peux t'initier dans la culture américaine. Je sais pas, je me sentais vraiment inspirée par toute cette culture. Mon mari, bien entendu, progressiste à 100%, donc il m'a inspirée à regarder un peu plus les élections présidentielles. Donc je les ai vachement suivies avec beaucoup d'enthousiasme. On est allé à un rassemblement pour Bernie Sanders. C'était vraiment, on avait des t-shirts. Je voyais mon mari qui était vachement très différent d'en France, où vraiment tu as les gens qui payent pour leur parti et qui ensuite appellent les gens au téléphone, les indécis, pour essayer de les pousser à aller voter ou d'aller voter pour un candidat. Donc je voyais mon mari aller faire du porte-à-porte, appeler les gens, qu'il a encore fait d'ailleurs en 2020, donc c'était vraiment chouette. Et ouais, donc il y avait vraiment une effervescence, surtout qu'on était à Brooklyn Greenpoint, donc c'est vraiment le... l'épicentre pas du parti socialiste, parce qu'ils pensent que Bernie Sanders c'est un socialiste, mais vraiment côté très progressiste. Mais c'était intéressant quand même, en tant que petite personne qui veut s'initier dans la culture, de comprendre. Et quand 2016 est arrivé et qu'on a vu que Hillary Clinton a perdu, mais en plus on suivait les actualités live et tout, et on voyait état par état qu'il gagnait, que ça devenait, la carte devenait rouge, et on se disait mais WTF quoi, enfin et on est allé s'endormir en, il manquait genre, je crois, Pennsylvania, ce genre, il manquait des états un peu cruciaux. Je me rappelle encore du matin le réveil des résultats des élections présidentielles, à savoir que Donald Trump était passé, et mais j'ai l'impression que c'était C'était une journée de deuil national. Enfin, en tout cas, moi, c'était le sentiment que je ressentais dans le métro où il y avait un calme plat. Personne n'osait dire quoi que ce soit. Même au bureau, je me rappelle, c'était plat. Vraiment, c'était impressionnant. Et puis, on connaît l'histoire, on connaît le cours en 2016. Et on sait que pendant 4 ans, il a fait énormément de mal à ce pays où il a insinué que c'était normal, du coup, d'être officiellement raciste, d'être officiellement antisémite, d'être officiellement anti-tout, except anti-white, manifestement. Quand on voit ce qui se passe avec la Cour suprême en ce moment, et le fait qu'il ait pu élire 2 personnes, et on voit maintenant cette loi fédérale qui aidait les femmes et les hommes, in fine, du coup, à l'avortement, a été dégagée 5-3, on se dit, mais jamais de la vie ça aurait pu passer si ça avait pas été Trump au pouvoir, quoi, enfin... Aujourd'hui, je me définirais plus comme... je pense que quand les gens me demandent qui je suis, je dirais que je suis franco-américaine, mais je dirais plus américaine que française. Par exemple, quand j'ai suivi bêtement un peu les élections en France, je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais j'ai pas voté, par exemple, parce que je me sentais pas légitime de voter pour quelqu'un. Parce que je voyais pas Macron, je voyais pas Mélenchon, je me ressentais pas non plus... je voyais pas du tout les... Le Pen ou Zemmour, par exemple, ceux-là, par contre, ils étaient effrayants. Je me sentais pas légitime à voter pour un peuple que aujourd'hui j'ai l'impression que je ne représente plus. Et pour autant, et c'est vraiment, pour le coup, vraiment avoir le fessier et la tête entre deux chaises, parce que même en tant qu'Américaine, aujourd'hui, j'ai honte de ce pays, parce que il y a quand même des points positifs et il faut rester positif. Je pense que c'est surtout ça. Même si aujourd'hui il y a un démocrate, un président démocrate, pour moi c'était pas non plus mon préféré. Et ça reste encore une fois la corruption même au sein des partis aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs dommage qu'il n'y en ait que 2, voire 3, hein, voire 4 avec les Verts. C'est difficile aujourd'hui quand on voit l'actualité de. Là, comme tu l'as dit, on enregistre, on est le 7. Donc c'était le 4. Théoriquement, c'est l'anniversaire des États-Unis. Et je. Mon mari comme moi, on n'a pas voulu le fêter parce qu'on ne se sentait pas trop de patriotisme. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être fier d'être américain, de voir ce qu'on... Un signe aux enfants, un signe aux femmes. Enfin... Ouais, aujourd'hui, c'est quand même très difficile de se sentir américaine et même de se sentir en sécurité dans ce pays. Il y a quand même beaucoup de points positifs à être aux États-Unis. Oui, c'est facile de monter un business. Oui, il y a des opportunités énormes. C'est un gros marché... Le chit-chat américain, moi j'adore. D'ailleurs, j'en fais aujourd'hui. Je suis très fière. C'est un art quand même à avoir. Cet enthousiasme aussi que j'aimerais bien, c'est un art, je trouve, d'être autant enthousiaste et positif à l'américaine. Dire « Oh, that's amazing, this is great !» Non, c'est quand même une belle culture, un beau pays. Mais malheureusement, il y a quand même... encore une fois, je pense que Trump a laissé beaucoup de dégâts derrière lui, beaucoup de dommages collatéraux. Quand on voit qu'aujourd'hui la loi favorise le port des armes plutôt que la sécurité de nos enfants dans les écoles, je pense que ça c'est notre plus gros point d'interrogation avec mon mari, parce que moi je lui ai dit qu'il était hors de question que je mette mes enfants dans un système scolaire qui autorise des drills sur des enfants, et j'avais écouté NPR, c'était il y a 2-3 ans, qui expliquait que ils venaient d'enlever un drill. Les drills, en fait, c'est des exercices en cas d'incendie, par exemple, en France. Nous, on a souvent ça. Ici, les enfants, ils avaient un drill. Et ils l'ont enlevé il y a quelques années. Où, en fait, ils allaient présenter un gun sur la tempe d'un enfant. Et dire, voilà, maintenant, comment tu réagis si tu as comme ça un pistolet devant la tronche? Et je me rappelle, à l'époque, j'avais pas d'enfant, mais je m'étais dit, mais what the F, quoi. Vraiment, what the F, dans ce pays qui préfère les armes à feu plutôt que l'état mental des enfants à leur pointer un pistolet devant leur tronche, quoi. Enfin, à l'école. L'école qui est quand même être un milieu gentil où on apprend les choses, les élèves, hein, on en a quand même un bon souvenir en général quand même de l'école. Et je pense que c'est l'élément le plus important dans la balance, à se dire... écoutez, nos voisins canadiens, ils ont quand même l'assurance santé, ils ont quand même un système scolaire performant, parfois gratuit. Enfin, ils ont l'air quand même de bien s'en sortir économiquement, et pour autant, c'est pas des idiots, quoi. Bon, ils ont Justin Bieber, mais c'est autre chose, quoi. Ils ont Ryan Reynolds et Ryan Gosling. Mais non, quand même, c'est pour ça que parfois, bon, le Canadien, il fait froid, mais ils ont quand même compris pas mal de choses administrativement et pour rendre les gens heureux et safe, tu vois. Donc, bref, donc pour conclure, c'est dur aujourd'hui de... Je sais qu'ici, ils aiment bien mettre leur drapeau américain partout. Mon fils est fan des drapeaux en ce moment, donc on en avait acheté un chez Target. Et pour autant, on n'a pas voulu le mettre dehors parce que il n'y avait pas le cœur à faire la fête. Un jour, quelqu'un m'a fait la réflexion de genre... c'est marrant quand tu parles de la France. Moi, par exemple, je dis pas je rentre en France. Je dis je vais en France, je vais rendre visite à ma sœur, à mes potes. Et je trouve que ça définit bien, en tout cas, mon état d'esprit où je me sens plus française. J'ai plus trop l'occasion de rentrer en France. Et c'est pour ça que, par exemple, quand je dis où est-ce que je vais, bah, par exemple, en août, là, je vais rentrer, par exemple, à New York. Et je trouve que c'est quand même intéressant parce que de se dire je vais rentrer quelque part, je pense que c'est là où tu forcément insinues où est ta maison en fait, ou d'où tu viens. Même ici, quand on me demande ah oh, oui, t'as un petit accent, where you come from, je dis bah je viens de New York, et les gens ils disent what? et après je leur dis non, je viens de France normalement, mais c'est quand même voilà, c'est quand même vachement rigolo d'essayer parfois de comprendre son identité culturelle, et c'est pas obligé d'être soit noir soit blanc, c'est parfois gris et c'est très bien comme ça.
Je m'appelle Jade, j'ai 32 ans, je viens de Paris dans le 16e arrondissement et j'habite maintenant à Newington dans le Connecticut, donc c'est à côté de Hartford qui est la capitale du Connecticut. Et en gros, c'est un tout petit état entre New York et Boston, en fait, au bord de la mer. Et je suis arrivée à la base en 2008, donc en tout, ça fait presque 14 ans. J'étais au pair au début, et puis je suis rentrée pour faire ma première année de L1 à Paris. J'ai fait STAPS, donc les études de sport, en gros, et... Je sortais avec quelqu'un qui est un Américain, j'avais rencontré pendant mon année d'au pair, et qui m'avait dit « Écoute, si tu comptes faire des études dans le sport, je te conseille de venir faire tes études aux États-Unis parce que... » Et j'étais sur la même longueur d'onde, j'étais d'accord sur le fait que, comme c'est un pays qui est vachement poussé sur les études sportives, le milieu, le business du sport, je m'étais dit que si j'obtenais mon bachelor, donc la licence aux États-Unis, ça serait un avantage sur mon CV en retournant à Paris. Donc je suis revenue et c'est comme ça que je suis restée aux États-Unis. Bon, on s'est séparés avec ce copain à l'époque, mais entre-temps, la dernière année de ma licence, enfin de mon bachelor ici, j'ai rencontré mon mari, enfin celui qui est mon mari aujourd'hui, qui vient du Connecticut. Donc voilà, on est rentré à Paris 2 ans pour faire mon master et comme il comprend très bien le français, mais il ne parle pas assez bien pour vivre et travailler en France, donc je suis revenue. Pendant longtemps, enfin plusieurs années, presque une décennie, je n'ai pas du tout fait les démarches. Alors qu'à partir du moment où tu es mariée, il me semble qu'au bout de 2 ans, tu peux commencer à faire des démarches et au bout de 3 ans, tu peux obtenir cette nationalité, double nationalité. Enfin, ça dépend d'où tu viens, mais quand tu viens de France, la France autorise la double nationalité et les États-Unis aussi, donc c'est bon. J'ai fait la demande, en gros, pourquoi ? Parce qu'au bout d'un certain temps... J'ai senti qu'il était temps, en fait, jusqu'à un certain temps, je me sentais pas, enfin, j'avais pas le besoin, je me disais que non, c'est pas grave, je reste sur une green card, et voilà, et en fait, au bout d'un moment, c'était les voyages, ça a été la première chose qui m'a poussée, en fait, à le faire, c'était les allers-retours, parce que j'ai la chance, quand même, de rentrer en France assez souvent, et de revenir sur le territoire et de me retaper, les interviews, les entretiens avec les agents de la douane Alors que voilà, encore une fois, ça fait longtemps que je suis là, j'ai tous les papiers nécessaires, enfin, j'ai ma green card, etc. Mais je continuais à me faire arrêter, on va dire, enfin, prise de côté dans la salle pour faire les... Donc, bon, déjà, ça m'avait un peu saoulée. Donc, je m'étais dit, une fois que j'ai le passeport, ce sera vite fait, bien fait, hop, tu passes et c'est bon. Et je pense que ça a été aussi le contexte de la période Covid et de la période aussi, sans rentrer trop dans la politique, où Trump était président. Et donc, j'avais pas le... Ça faisait quand même plus de 10 ans que j'étais là et j'avais pas le droit de voter, évidemment. Donc, moi, ça m'avait vachement poussé aussi à obtenir le droit de vote, tout simplement, parce que je me sens quand même américaine au jour d'aujourd'hui. Puis voilà, avec mon mari, on a eu notre bébé aussi. Il y a eu beaucoup de changements d'un coup. Mais du coup, j'avais vraiment... je ressentais le besoin d'être beaucoup plus investie au niveau politique, qui est de la facilité au niveau des voyages aussi. Et par rapport à notre enfant, de me dire que voilà, si un jour il se passe quelque chose entre lui et moi, eh bien, au moins, je serai légitime. Et si, voilà, l'enfant est là, il est né ici. Donc, j'avais besoin d'avoir cette sécurité-là aussi. Enfin, l'une des autres raisons pour lesquelles j'ai repoussé au maximum pour faire cette demande de nationalité, c'est parce que c'est quand même assez très cher. C'est-à-dire qu'il faut compter au moins 1 000 $, on va dire, un petit peu moins, j'exagère. Mais c'était quand même hyper cher, et voilà, sur les années qui ont précédé celles où j'ai fait ma demande, je préférais dépenser 1 000 balles sur des vacances ou sur d'autres choses, que sur cette nationalité qui me semblait pas ultra nécessaire jusqu'à présent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la période Covid, on a reçu donc notre stimulus, le premier d'ailleurs, le stimulus check de Trump. Et donc, c'était 1 200, je crois. Et donc, j'ai dit à mon mari, bon bah voilà, là, c'est le cadeau qui tombe du ciel, l'argent qui... J'ai même pas eu à mettre de côté, qui est arrivé comme ça, de nulle part. Donc, pourquoi ne pas utiliser ce chèque pour payer donc les frais de demande de naturalisation. Les démarches, donc ça s'est fait l'année dernière, en 2021. Bon, déjà, c'était un peu compliqué pour moi l'entretien, parce que je pense que lui, déjà, était d'un autre pays. Donc, il avait un accent très, très difficile à comprendre pour moi. Donc déjà, au niveau de... Toi, t'as déjà un petit stress, bon, voilà. Puis t'arrives et t'as du mal à comprendre la personne. On portait des masques, donc on voit pas la bouche. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un au téléphone en anglais, des fois, tu dis, waouh, j'aimerais bien pouvoir voir sa bouche, quoi, pour... Bref. Donc, j'étais là, ah, can you repeat? Pourtant, je suis fluette. Enfin, je veux dire, ça fait 15 ans, il n'y a pas de souci, hein. Mais avec son accent et tout, j'avais un peu de mal. Donc, je m'étais dit, ouais, c'est bon, j'ai foiré, c'est sûr. J'ai foiré, je sais pas, j'ai du blank sur les questions, sur les réponses. Après, au niveau de l'écrit, l'oral, c'était très simple, donc ça, c'était quand même très basique pour moi. Mais au niveau des questions, tu sais, tu peux te faire un... Voilà, quoi. Donc, je pensais l'avoir... Et puis, il était ultra... Alors, les questions, ça, c'était rapide, mais après, il rentre dans les détails de ta vie, il pose des questions après en général sur tes allers-retours. Là, faut remonter 10 ans, 5... il y a 8 ans, il y a 7 ans, vous étiez où, à quelle date, vous êtes parti, vous êtes revenu. Je me suis embrouillée, il va pas... Et puis, il te pose quand même la question, est-ce que vous êtes prête à prêter allégeance au pays, à renoncer à tout ça. Et ça, c'était une conversation que j'avais eue avec mes potes américains, et je leur avais dit, mais clairement, enfin, bien sûr que je serai là s'il y a une attaque sur mon état, je défends, parce que ça fait, j'ai une maison ici, j'ai mon enfant ici, maintenant, c'est, voilà, je défends mon territoire, mon, voilà. Et en même temps, enfin, je vais pas renier, la France, enfin, je m'intéresse toujours, ma famille est là-bas, enfin, je peux pas... Mais bon, pendant l'entretien, j'étais, oui, bien sûr, effectivement, tout à fait, bien sûr. Donc, je pense qu'il a grugé que... Mais je pense que tout le monde... Enfin, je sais pas. Et donc, à la fin, je m'étais dit, bon, je pense que j'ai foiré, il était vraiment méchant, il faisait peur. Et à la fin, il est là, il retire son masque, il me fait, bon, vous allez passer à la salle d'à côté. Et moi, je suis, pourquoi, il y a quoi, et qu'est-ce qui se passe? Et il me fait, non, mais c'est bon. C'est bon, vous allez obtenir votre papier. Donc j'étais choquée. J'étais, oh, wow, oh my god, thank you so much. J'avais la larme à l'œil. Franchement, c'est vrai que j'avais quand même une émotion. J'étais très contente. Et t'arrives dans la salle d'à côté, et puis il y avait 8 autres personnes assises sur des chaises séparées en mode Covid, voilà. Et on attendait peut-être 2 autres personnes qui arrivent. En fait, ils faisaient des sessions toutes les heures, je pense. T'avais 10 candidats qui sont acceptés, peut-être. Et voilà, et donc il y a un gars qui est arrivé et qui nous a fait tout un speech. On a répété, on s'est mis debout, on a mis notre main. On a fait des photos et on avait notre papier, on est rentré. Voilà. La belle famille, très patriote. Ils auraient adoré être là. Ils auraient voulu me voir, remuer mon petit drapeau, tout ça. Alors que bon, moi ça m'aurait fait plaisir, mais bon, ça m'a pas gênée plus que ça. Enfin, j'ai fait une jolie photo, je l'ai mise sur mon Instagram, tout le monde, c'est le plus de likes que j'ai eu, je crois. Ça et la photo de mon nouveau-né. Et c'était que des Américains pratiquement, quoi. Encore une fois, ils étaient à fond, quoi. Ils étaient trop contents pour moi. Il y a eu des personnes qui m'ont dit « T'as mis du temps, dis donc ». Il y a beaucoup de gens qui me disaient « Mais attends, tu t'es mariée en 2014, pourquoi tu n'as pas fait la démarche à ce moment-là? Pourquoi avoir attendu autant de temps ?» Et puis, par rapport à ma famille française, c'est vrai que nous, on a pas mal d'amis, enfin, on a des amis en Alabama et en Californie, donc depuis qu'on est jeune, ma mère, on y va souvent avec ma sœur. On allait souvent aux États-Unis déjà, avant même d'être à l'âge adulte, etc. Donc, j'avais déjà beaucoup cette influence, enfin, je me sentais déjà américaine depuis un petit bout de temps, même si je n'étais pas, mais enfin, même on était de la génération qui regardait MTV, Made, tout ça, enfin, j'avais toujours été. Et en gros, quelque part, les gens en France me voyaient déjà comme américaine, donc c'est vrai que quand je leur ai dit non, mais ils étaient choqués que je ne l'avais pas déjà fait ou que je ne l'étais pas déjà, quelque part, tu vois. Et je me souviens, par contre, ma mère m'avait dit clairement, tu fais en sorte qu'ils ne prennent pas ton passeport français. Elle me l'a répété 10 000 fois. Elle avait peur qu'ils me prennent ma nationalité française et que je lui dis, mais non, on a droit à la double nationalité. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'elle m'avait répété ça plusieurs fois. Elle avait peur qu'ils me confisquent mon passeport français ou je sais pas quoi. Mais donc voilà, non, au niveau de la France, de mes amis français, ma famille française, ils étaient presque un petit peu étonnés que j'ai mis autant de temps ou que ça ne se soit pas déjà fait, quoi, dans le passé, on va dire. Mais après, voilà, pas plus de grandes pompes, enfin, c'était pas « Waouh, champagne !» Enfin, bon, ils étaient contents, mais... En revanche, du côté américain, c'était intéressant, je trouve, parce que au niveau des collègues, bon, ma belle famille, évidemment, mes amis, mais tout le monde m'était en mode « Waouh, c'est génial, we're so proud of you, on est tellement fiers, je pense que tu vas... » Enfin, et j'en parlais avec mon mari et il me disait « Ouais, mais je pense que ça, c'est vraiment dû au côté ultra-patriotique. » Où les gens, en fait, ici, se disent « Si cette personne a demandé la nationalité américaine, c'est parce qu'on est le meilleur pays au monde, on est number one. » Donc, évidemment qu'ils veulent la nationalité américaine. Genre, pourquoi ne pas l'avoir, enfin, si tu peux. Alors que moi, c'était vraiment plus pragmatique comme démarche. Enfin, bien sûr, maintenant, je suis fière, je suis contente d'être américaine, mais en même temps, c'était vraiment plus en mode pour les paperasses, pour le vote, pour le voyage, qu'autre chose, en fait. Donc, mais voilà, leur joie de m'accueillir en tant qu'américaine, en tant que telle, c'était sympa. Donc non, ils étaient très contents. Bon, j'ai reçu des bouquets de fleurs avec des drapeaux, des trucs des ressources humaines de l'entreprise. Enfin, les gens, bon, ils étaient très, très fiers pour moi, j'ai l'impression. J'avais pas besoin de ça pour m'identifier. Enfin, je me suis toujours sentie... peut-être pas aller pour la première année ou la deuxième. Mais en fait, à partir du moment, je dirais, où j'ai eu mon diplôme et que j'ai commencé à travailler dans une entreprise américaine, j'ai jamais travaillé en France, en fait. J'ai jamais vécu... j'ai vécu à Paris jusqu'à 18 ans et après, voilà. Donc ma vie d'adulte, vraiment, elle s'est faite ici. Et j'ai toujours travaillé en entreprise américaine, entourée d'Américains. J'avais des amis français en VIE qui sont rentrés en France, donc voilà. Là, j'ai une copine, Marine. Bon, elle vient d'avoir un bébé, elle aussi, donc c'est un peu plus compliqué maintenant. On se voit moins, mais ce qui est normal. Mais, donc en fait, tous mes amis sont américains. Enfin, j'ai pas du tout de... Il n'y a pas une énorme communauté française aussi, ici. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, bien sûr, à New York ou à Boston, dans les grosses, grosses villes. Mais là, on est vraiment en suburbs, style Wistaria Lane. Enfin, tu vois, c'est les maisons avec le basket, les enfants en vélo. Et voilà, donc c'est que des Américains. Donc, je me suis toujours intégrée directement en ayant fait mes études ici en plus. Donc, tous mes amis de l'université, c'est des amis américains. Et voilà. Donc, je me suis toujours sentie américaine. Après avoir obtenu la nationalité, je me sens un peu plus légitime maintenant pour ouvrir un peu plus ma bouche quand j'ai envie. C'est-à-dire qu'avant, je me retenais, surtout, comme je te disais tout à l'heure, la période Trump. Jamais j'ai osé ouvrir, en fait, mon clapet sur ce sujet-là avec des Américains qui étaient beaucoup plus investis parce que je me sentais pas aussi légitime. Maintenant, si j'ai envie, je me lancerai dans un débat sans problème. Et puis voilà, je paye mes taxes, enfin, depuis 10 ans, je... Voilà, donc j'ai une propriété, j'ai tout ça, donc je me suis toujours sentie américaine. Par contre, ce qui est marrant, quand je rentre en France, évidemment, tout le monde me voit comme l'américaine, mais ici, je suis quand même considérée comme la française, encore aujourd'hui. Enfin, pour mes amis, pour mes collègues, il y aura toujours des petites blagues ou des questions, enfin, ils sont... Donc même si moi, je me sens, je m'identifie américaine, enfin franco-américaine, ici, je suis quand même vue toujours, après autant d'années, comme la française. Ça sera toute ma vie, je pense. Mais ça ne me dérange pas du tout, je suis contente et fière d'être la française du groupe. Ce qui est... C'est un plus, c'est cool, c'est... Voilà. J'adore ma vie plan-plan de la suburb, confortable, la climatisation, nanana, ok. Mais il me faut rentrer sur Paris au moins une fois, si ce n'est pas deux. Je rentre au moins deux fois par an, parce que bon, la famille est là, évidemment, elle me manque. Et voilà, ce côté, juste les terrasses parisiennes, enfin, c'est des trucs basiques, mais de pouvoir fumer une clope et boire un coup avec mes copines, voilà, c'est... Donc ça, c'est une façon pour moi de rester connectée un petit peu, évidemment. Et puis en fait, disons que depuis que j'ai eu ma fille Juliette, qui a donc 15 mois, bon, je lui parle qu'en français, depuis la naissance c'est que du français. Et ça a été un peu difficile au début parce que ça vient pas naturellement, vu que maintenant je parle pratiquement jamais le français. Enfin, mon mari, on se parle en anglais, mais j'ai fait en sorte, je me suis forcée de lui parler. En plus, quand c'est un nouveau-né, elle te parle pas, elle te répond pas, donc t'es là. Mais j'étais là, non, mais il faut absolument que je lui parle français, parce que ça m'a remis dans le bain. Je me suis dit, je vais lui faire des dictées en français, enfin, on va... Et les livres avant le dodo, c'est des livres en français que j'ai reçus de ma mère et de ma sœur. Si je lui mets un petit dessin animé, je vais lui mettre Trotrot ou Choupi, enfin, je me mets sur YouTube, j'essaye de trouver des trucs en français, enfin, je fais vraiment ma difficile là-dessus. Pour moi, ce serait une énorme déception. Je serais presque, j'en aurais honte, limite, si mon enfant ne parlait pas le français. Si elle rentrait à Paris avec moi, elle y est déjà allée deux fois, là, et qu'elle comprend pas sa grand-mère ou qu'elle puisse pas parler avec ses cousins. Enfin, ça me... Voilà. Bon, là, avec Covid, on travaille de la maison maintenant. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'avant, je conduisais presque une heure aller-retour pour aller au bureau et je me mettais en podcast et j'écoutais, en fait... des podcasts de France Inter, des choses comme ça, pour garder un peu, pour rester un petit peu connectée à ce qui se passe en France. Mais sinon, je pense que c'est l'enfant qui m'a remis dans le bain comment ça se passe en France, qu'est-ce qu'on utilise comme produit en France, parce que les pédiatres ici te conseillent quelque chose, mais en France, on conseille autre chose peut-être. L'école des maternelles, j'écoute beaucoup ces podcasts-là aussi, alors qu'avant, non. Avant, j'étais vraiment à fond States et je calculais pas trop. Mais là, ça m'a vraiment... ouais, je crois que c'est depuis le bébé.
Moi, c'est Isabelle Lugliani. J'ai 53 ans. J'habite aux États-Unis depuis 2008. Dans la banlieue de Kansas City, donc c'est dans à la cheval entre l'état du Kansas et du Missouri. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en 2010, on arrive en 2008, en 2010, on a eu la green card. Et puis, en 2014, notre fille aînée est partie à l'université à McGill au Canada. Et on s'est posé la question de savoir si sous green card, elle pouvait, enfin, elle risquait de perdre sa green card à vivre ailleurs qu'aux États-Unis, parce qu'on nous avait raconté l'exemple d'un étudiant qui n'avait pas pu rentrer parce que tout d'un coup, en fait, c'est vraiment soumis à l'avis du douanier. Et le douanier, ce jour-là, avait décidé qu'elle ne rentrait pas parce que sa green card était plus valable. Alors, je savais qu'il y avait le re-entry permit, mais c'était pas clair, en fait. Alors, du coup, on m'a orienté, on m'a dit, va voir un avocat d'immigration. Il t'en dira un peu plus. Puis je vais voir cet avocat et il me dit en fait vous en êtes à 4 ans et demi de green card et vous êtes en droit de pouvoir commencer un dossier de naturalisation. Donc en fait j'étais vraiment pas venue dans cette optique là et quand je suis sortie de ce rendez-vous j'étais vraiment interloquée. Donc j'en ai rediscuté avec mon mari évidemment, avec ma fille et puis je dis voilà c'est peut-être effectivement l'occasion de prendre la nationalité, parce que pour toi, ce sera, en tout cas, pour ma fille, ce serait beaucoup plus simple. Et donc, on avait encore quelques mois de réflexion, parce que on peut commencer les démarches quand on est vraiment à 4 ans et demi. Finalement, donc, on a pris cette décision-là. Donc, j'ai 3 autres enfants qui étaient mineurs. Donc, on a fait finalement les dossiers uniquement pour mon mari, ma fille qui était donc majeure et moi-même. Les mineurs, ils n'ont pas besoin de faire de dossier. En fait, ils sont quand les parents deviennent américains, les mineurs deviennent automatiquement américains. Alors ils peuvent obtenir le passeport après. Il y a aussi une démarche, il faut faire une demande de certificat de naturalisation pour les mineurs une fois que nous on est devenus américains. On l'a pas fait sur le moment et j'avoue qu'on le regrette un peu parce que maintenant les tarifs ont doublé. Donc c'est parce qu'évidemment ça a un coût, hein, devenir américain aussi. Ça, quand on dépose le dossier, on fait un chèque. À l'époque c'était $600 par personne. Voilà, et ça enclenche le mécanisme vers la naturalisation. Et ça a été très rapide. Donc c'était 2015, il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens, je pense, qu'il a demandé la nationalité. Donc on a envoyé le dossier, je crois, en février. 3 semaines après, on a reçu une convocation pour des empreintes. Donc on devait aller au centre d'immigration donner nos empreintes. On est reparti de ce rendez-vous avec un petit manuel où il y avait 100 questions. Et on nous a dit, vous allez recevoir une convocation pour un autre rendez-vous, il va y avoir un interview, vous allez devoir répondre à je sais plus combien de questions par rapport à en fait c'était des il y avait 5 sujets, il y avait la géographie, fallait un peu travailler, mais bon c'était quand même relativement facile. Géographie, histoire, politique, organisation de l'État en fait des États-Unis, et donc il fallait un peu potasser tout ça. Donc on a été reconvoqué donc pour cet entretien où on nous demande un peu nos motivations, ils essayent de voir aussi si on connaît l'anglais, enfin si on parle bien anglais, etc. Ils m'ont un peu coincé parce qu'ils m'ont demandé mon numéro de sécu américain, j'arrive pas à l'apprendre, donc j'étais là oui bon, mais bref ça a été relativement ça s'est très bien passé et puis ça a dû durer un petit quart d'heure. Et puis après donc on attendait la convocation pour la cérémonie qui a eu lieu en juillet. C'était une super cérémonie. On était un peu perdus au début parce que on a été convoqués, on est allé dans une salle. Alors en plus j'avais mes autres enfants et puis mes beaux-parents qui étaient là aussi. Et on savait pas trop. On était parqués dans cette salle, on savait pas trop ce qui allait se passer. Puis tout d'un coup ils nous ont dit, ceux qui passent qui sont là pour la cérémonie, vous venez avec nous. On a rendu notre green card et on nous a placés dans une pièce qui était un peu qui n'était pas extrêmement grande, et donc on a été placé on avait un ordre en fait. Et donc on était 90 ce jour-là à devenir américain. Il y avait une trentaine de nationalités, on n'était pas beaucoup de Français, on était juste mon mari, ma fille et moi, plus une autre personne. Puis après il y avait beaucoup de Mexicains, il y avait aussi, c'était drôle, il y avait pas mal de gens du Bhoutan et d'autres du Burma. Donc, c'était assez impressionnant. Donc on était là et puis ils ont fait rentrer les spectateurs. Donc là, mes beaux-parents et mes autres enfants ont pu rentrer. Et puis il y avait un juge qui officiait qui avait fait venir quelqu'un qui était sa sœur en fait. Et sa sœur, c'était une personnalité assez connue dans un monde particulier. Enfin, c'était donc le juge en question. Parce que donc la cérémonie était à la cour de justice en fait de Kansas City au Kansas. Donc le juge, c'était lui qui officiait la cérémonie et il avait fait venir sa sœur. Et ce juge était, et donc cette femme était mexicain d'origine. Et donc elle a fait tout un discours très émouvant sur l'intégration, le fait d'être étranger au départ, etc. Et alors donc ce qu'on a appris après, c'est que cette femme avait été une proche de Clinton et qu'elle était à la tête d'une association hispanique très très importante, quoi. Donc du coup ça avait mis un peu de peps à cette cérémonie. Donc on nous avait fait nous lever l'un après l'autre et nous présenter, enfin juste notre nom, prénom et ce qu'on faisait, et notre nationalité d'origine. Et puis ben voilà, après il y a eu le pledge. Et ouais, c'est vrai que c'est un peu perturbant parce qu'on nous dit ben vous, c'est pas qu'ils nous disent qu'on laisse tomber notre nationalité, mais c'est que on doit prêter allégeance. Ça veut dire que si les deux pays rentrent en guerre, ben on est américain maintenant et on doit être pour les États-Unis. Alors ça fait un petit quelque chose, mais bon, voilà quoi, c'est vite dissous dans le reste. Et il y a eu un petit pot après à la fin où on nous disait ben prenez vos papiers pour faire le passeport et vous inscrire sur les listes des électorales. Quand on a pris la nationalité, c'était en 2015, donc c'était encore Obama, et à vrai dire, on s'attendait pas du tout à ce qui allait se passer un an après, quoi. On était à mille lieues d'y penser. Donc c'est vrai que quand Trump est passé, bon déjà j'étais contente d'avoir pu voter, même si c'est un peu particulier parce que quand on est au Kansas, hein, donc on est dans un État qui est à majorité républicaine. Mais voilà, ce que j'ai été d'autant plus contente, c'est d'avoir pu être inclus dans la vie du pays et de pouvoir voter. Bon, de toute façon, il y a des élections tous les ans, donc dès 2015, j'ai pu voter. Mais en 2016, j'étais aussi vraiment très contente de pouvoir voter et de pouvoir donner ma voix à ce processus. Et c'est vrai que ça m'a fait vraiment me sentir américaine de pouvoir voter, quoi. Et bon, en même temps, je m'intéresse beaucoup à la politique et à ce qui se passe dans le pays. Et je suis contente de pouvoir avoir vraiment un impact, enfin aussi minime que soit-il, par mon vote, quoi. Donc après, maintenant dans la vie courante, est-ce que je me sens vraiment américaine? Ben oui et non. C'est un sentiment assez ambivalent en fait, parce que quelque part on est toujours, je suis toujours très profondément attachée à la France et que je me sens, enfin mes racines sont là-bas. Ici, je me sens un peu déracinée en fait, et pas très dans la vie quotidienne. On est tout de suite, on se sent pas américain dans la vie quotidienne, quoi. C'est vrai qu'on commence à penser comme les Américains, mais par leur regard à eux, sera jamais entièrement reconnaissant de notre nouvelle nationalité, on va dire. C'est un sentiment qui est assez fort, enfin pour ma part en tout cas, et d'autant plus que je vis au Kansas. Voilà, c'est pas comme en Californie où il y a un melting pot et donc il y a énormément d'étrangers. Là, nous, enfin je le vois dans les interactions que j'ai avec les gens à l'école, quoi. C'est les parents des autres élèves, des amis de mes enfants, ils ont pas un regard. On sera toujours les étrangers, quoi. Donc, parce qu'on a un accent, parce qu'on n'est pas dans leur moule, et puis pas vraiment accepté, et puis toujours un petit peu mis à l'écart. Donc voilà, quoi. Et puis ben c'est surtout que chaque fois que tu vas quelque part, tu pars avec un caissier par exemple, qui dit ah mais vous venez d'où, ah j'adore votre accent. Bon, c'est très gentil, hein, mais voilà, quoi, c'est toujours ce qu'on dit en premier, quoi. Et, voilà. Alors mon mari, il est excédé par ça, il dit je suis américain. Donc moi, j'aime bien encore. Je dis, oh, je viens de France. Quand on est arrivé il y a 11 ans, on était, je sais pas, les seuls étrangers de la rue. Hein. Ça commence un peu à se diversifier. Donc, je me sens un peu dans une immersion totale. Mais je garde vraiment un lien très fort avec la France, je pense avec avec ma famille, avec enfin voilà, quand je peux y rentrer l'été, c'est des moments très forts. C'est un peu ambigu parce que quelque part parfois je me dis mais qu'est-ce que je fais ici quoi, voilà, ma famille n'est pas là, qu'est-ce que je fais ici quoi. Et à la fois bon, je suis dans une situation particulière, c'est que les enfants, il y en a 3 sur 4 qui sont partis. Alors il y en a une qui est à San Diego et qui donc vit vraiment l'université américaine. L'aînée, elle est donc au Canada et elle va y rester. Et puis la troisième, après avoir fait un parcours un peu sinueux et être passée par l'université américaine, elle est en France maintenant. Elle est revenue. Et justement, c'est quelque chose qui reste très fort pour mes enfants, même s'ils se sentent maintenant plus tout à fait français, la France a une place assez importante pour eux dans leur cœur, en fait. Certains se sont identifiés très fortement aux États-Unis à un moment donné, et puis finalement, quelque part, c'est passé, quoi. Il y a eu un retour, enfin pour ma deuxième notamment, il y a eu un retour vers la France avec un sentiment très fort. Et l'aînée, elle s'est identifiée dans un modèle qui est un peu intermédiaire. C'est le Canada, enfin le Québec, quoi.
Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. Si vous avez des questions ou s'il y a encore quelque chose que vous aimeriez entendre sur ce podcast, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez le faire via les réseaux sociaux ou encore nous écrire par email contact@lesamericainslepodcast.com. Les hors-séries, c'est terminé. On reprend une diffusion, j'ai envie de dire, habituelle sur le podcast. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et en attendant, très bel été. À très bientôt.